I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello! Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césarienne, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. Qu'on me donne aussi à voir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle « Retrouver le pouvoir d'enfanter » et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes ? Parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la Fnac, que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode.
Ok, salut Tessa.
Salut Roxane.
Merci beaucoup de m'accorder du temps ce matin. Je suis vraiment contente qu'on se parle. On s'est parlé un petit peu sur les réseaux sociaux et donc tu m'expliquais un petit peu ton parcours. Et là, on s'est parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Donc, tu as deux enfants.
Oui. Alors, le premier, 3 ans. Et le deuxième, il aura 1 an en janvier. Donc, il a 11 mois aujourd'hui.
D'accord. Parce qu'on se parle là au mois de décembre. Parce que pour les gens du coup qui vont écouter en février, il aura déjà un an.
Oui.
Pour spoiler un peu, tu as eu un enfantement autonome pour ton deuxième.
Oui.
Donc je comprends que ça n'a pas été le cas pour ton premier.
Non.
Est-ce que tu peux nous mettre un tout petit cadre avant de parler de ton premier accouchement ? Qu'est-ce que tu avais comme image de la maternité ? Quand tu étais plus jeune, et qu'est-ce que tu avais aussi comme image de l'accouchement en tant qu'expérience ? Comment tu voyais toutes ces choses-là ?
Alors, l'accouchement, pour moi, c'était quelque chose de très douloureux. J'avais ma mère qui, pour le coup, a eu un accouchement qu'elle disait non douloureux, mais avec la péridurale. Donc, pour elle, c'était formidable. Je suis enfant unique, donc elle n'a pas eu plusieurs accouchements. Elle n'a que moi comme expérience. Elle disait qu'en gros... C'était très très facile pour elle, que elle avait la sage-femme lui disait qu'elle dilatait comme si c'était son troisième enfant. Voilà, okay. Je ne sais pas si ça a une grande valeur, mais voilà, elle me l'a répété souvent. Elle était très sereine, voilà, mais avec la péri.
Ouais.
Voilà. Et donc moi j'avais donc le récit de ma mère et le récit de toutes les autres femmes de mon entourage où c'était abominable, c'était des souffrances atroces. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi les autres femmes faisaient plusieurs enfants, vu que c'était si atroce que ça. Et pour le coup, ma mère, qui avait eu un accouchement cool, on va dire, pourquoi elle n'avait pas fait d'autres enfants ? Voilà, pour moi, c'était complètement incohérent, je ne comprenais pas. Donc j'avais cette image et j'étais pas du tout informée en fait. J'étais absolument pas informée. Quand je suis tombée enceinte de mon premier, je ne savais pas du tout quoi faire. Les sages-femmes, pour moi, c'était quelque chose de très lointain. J'avais cette image que l'accouchement était, enfin, et la grossesse était médicalisée.
Ouais.
Donc pour moi, les sages-femmes, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne savais même pas à quoi elles servaient.
Ouais.
Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivée.
Ok. Ouais, il n'y a pas de honte à avoir. Hein. C'est vrai que, mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, c'était. Enfin, on a un parcours hyper similaire. Moi aussi, je suis fille unique. Moi aussi, ma mère, la péridurale, c'est génial, tu vas voir. Et oui, pour moi aussi, c'était ça. La grossesse, l'accouchement, c'est médical. C'est avec un gynécologue, un obstétricien. D'ailleurs, on dit bien un, hein, c'est pas une obstétricienne, c'est pas une gynécologue, c'est un. Et oui, les sages-femmes, c'était un truc plus. Peut-être pour un type de personne particulier, pour un type de besoin particulier, mais pas le besoin de la personne qui va accoucher, quoi. C'était autre chose.
Oui, bah d'ailleurs, en fait, je me représentais la sage-femme comme une personne qui était là au moment de l'accouchement, qui assistait le gynécologue ou l'obstétricien. Et en fait, ce que fait un petit peu la puéricultrice, j'ai l'impression, pour moi, c'était le travail de la sage-femme, en fait. Et qu'elle s'occupait plus du bébé, une fois qu'il était né, que de la femme enceinte.
Hein. Ouais, d'accord. Donc toi, tu vas avec ces notions-là dans ta première grossesse. Donc toi, tu te dis que tu vas accoucher à l'hôpital avec ta péridurale, enfin voilà, que ça va être comme ça. Comment se passe ce premier accouchement ?
Alors, j'ai eu très mal au niveau des contractions. Le truc, c'était que j'étais assez loin. J'avais 40 minutes pour aller à l'hôpital. Donc quand j'ai commencé à avoir les contractions, moi on m'avait dit que normalement on devait percer la poche des os. C'est comme ça qu'on me l'a présenté, donc j'ai compris après que c'était pas vrai forcément. Ouais. Donc moi j'attendais que ma poche des os se perce et j'avais très mal et je restais debout. Et mon conjoint, lui, depuis le départ, juste pour la petite parenthèse, il était beaucoup plus informé que moi.
D'accord.
Il avait lu pas mal de livres, notamment celui... Que faire de la douleur ? J'accouche, que faire de la douleur ?
J'accouche bientôt, ouais.
C'est ça. Il est pas très hôpital, voilà.
Okay.
Et pour des raisons personnelles. Ouais. Donc, moi, j'étais plus en mode, je veux que ça se passe bien. Et ce que j'ai entendu qui se passait bien, c'était la péridurale, parce que ma mère, etc., etc. Donc, il me forçait absolument en rien. Mais voilà, au moment où le travail commençait à se faire, j'avais quand même le doute à me dire, est-ce que je reste chez moi ? Mais en fait, j'avais aucune information, j'avais rien. Il y avait un peu ce qu'avait lu mon conjoint, mais lui-même n'est pas à ma place, donc il savait pas trop. Bon, on y est allé, et puis là, j'ai attendu 4 heures pour avoir la péridurale. Je me rappelle plus exactement. Honnêtement, quand je l'ai eu, ça a été un gros soulagement, qu'on ne m'aidait pas du tout à gérer la douleur. On ne m'avait pas expliqué. Alors après, je me suis dit sur le moment, oui, mais en même temps, ça a l'air d'être différent d'une femme à une autre. Donc comment on peut m'expliquer à moi ma douleur ? Enfin, voilà, donc j'étais ignorante, clairement. Quand j'ai eu la péridurale, en fait, ça a duré très longtemps. J'ai accouché en 12 heures à partir du moment où je l'ai eu. Donc, il y a eu après 2 heures avant de contraction à la maison, etc. On m'a percé la poche des os. Alors ça, pour le coup, j'avais aucune connaissance, mais alors j'ai pas du tout aimé.
Ouais.
J'ai trouvé que c'était violent. J'ai un peu les larmes aux yeux quand j'en parle, parce que je me suis dit, mais pourquoi, en fait Alors, j'avais entendu parler vaguement des bébés qui naissaient avec, qu'on dit coiffés, donc dans la poche des os.
Ouais.
Et en fait, c'était quelque chose que j'avais en tête. Je me disais, tiens, peut-être que mon bébé il va naître comme ça et tout. Je trouvais ça beau. Et il y a une sage-femme, donc celle du matin, qui a repris le service, quoi. Donc, je la connaissais pas. Elle rentre. Elle était très professionnelle et très directive. Et en fait, elle comprenait pas ce qui avait été fait avant. On ne m'avait pas fait une prise de sang pour mon groupe sanguin, je sais pas quoi. Donc ça lui a pas plu. Du coup, paf, elle me fait la prise de sang comme ça. Elle me fait un toucher vaginal. Et puis elle perce la poche comme ça.
Comme ça.
Elle m'a pas du tout prévenue. Elle m'a pas dit ce qu'elle voulait faire. Voilà. Bon, ça a été le truc que j'ai le moins aimé. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus.
Non, ça, non. Je ressens ce que tu dis.
Ouais,
enfin, ouais. Quand tu dis la violence et tout, puis elle te. Enfin bon, moi j'ai envie d'employer le mot viol. Hein,
oui,
tu
mais
vois,
c'est
à un moment
ça.
Donné.
C'est ça.
Enfin, c'est ton corps, c'est toi. Enfin, on n'a pas à te mettre des doigts. Enfin.
Oui. Oui. Oui.
Et puis tu dis la violence. Enfin bon, voilà, ça me. Voilà.
Ouais, je comprends. Bah, mon mais conjoint aussi, il n'était pas très content. Il a trouvé ça. Il aimait pas du tout, en fait. Ça nous a mis dans une mauvaise ambiance. On n'était pas bien. Lui, il était déjà pas très bien d'être à l'hôpital. Et voilà, c'est pas son truc. Moi, j'étais plutôt sereine avant, on va dire. Mais dans l'inconnu, voilà, je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas. Donc, moi, j'aime bien tout savoir, en fait. Alors, c'est sûr qu'on peut pas tout savoir. Mais on ne m'expliquait rien.
Ouais.
Et du coup, il était... lui, à côté, mon conjoint, ça l'a mis vraiment mal. Et donc, on a eu du mal après à avancer sur la suite, à se rassurer. On essayait de trouver des qualités à cette sage-femme et au personnel qui passait. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui passait aussi. Je trouvais ça dérangeant, mais en même temps, je me disais, bon, bah, c'est leur travail. Enfin, j'étais très partagée, en fait. Ouais. Je ne savais pas où me positionner. Ouais. J'ai pas du tout aimé le... Je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois.
Le monitoring.
Le monitoring, merci. Ça m'a saoulée, mais je ne comprenais pas. Et puis, donc, au moment... ça semblait être trop long pour eux, pour tout le personnel. Donc la sage-femme, la même, est arrivée et elle m'a donné un ballon. Elle m'a dit gonflez le ballon. C'est comme ça qu'on souffle, c'est comme ça qu'on pousse. Voilà.
Okay.
Alors moi, pour le coup, j'ai jamais su gonfler un ballon, donc j'avais l'air un peu con sur le moment. J'ai réussi au bout de je sais pas combien de tentatives et j'ai cru que j'étais à l'école, que
ouais.
J'avais une instite devant moi qui me disait fais ton exercice, non là tu le fais pas bien, mais vraiment elle était comme ça et là c'est bon, c'est bien, bravo.
Ouais.
Ok, bon. Et donc après j'ai utilisé cette méthode là pour pousser, mais moi dans mon esprit ça me semblait pas naturel. Pour moi c'était mon corps qui devait le faire. Et on l'en avait empêché avec la péri, machin. Ça, je l'ai compris après. Mais je pense que sur le moment, j'avais déjà compris pas mal de trucs.
Ouais.
Au final, l'accouchement s'est quand même plutôt bien passé. Je peux pas dire que ça s'est mal passé. J'ai pas été traumatisée. Par contre, ils m'ont beaucoup blessée. Enfin, vraiment, vraiment blessée avec la sonde urinaire.
Ouf.
J'avais une plaie très, très ouverte. Pendant, ça m'a duré donc une semaine après de douleur, mais atroce. Voilà. Et puis 15 jours pour vraiment que ça cicatrise. Et anesthésiée, je sentais ce qui se passait à cause de cette plaie. C'était trop bizarre, je ne pouvais pas l'expliquer. Et je disais, mais parce qu'à un moment, donc, le bébé est sorti. Il y a aussi quelque chose, c'est que j'avais retenu quelque chose que mon conjoint avait lu dans ce livre, comme quoi le bébé doit faire un tour du moment où il sort.
Ouais.
Et en fait, lui qui a tout assisté à tout, il a tout regardé, il était là, il était bien présent. Il a vu l'obstétricien récupérer, le tirer comme ça, et il n'a pas pu faire son tour. Et donc, mon conjoint, il était « Mais pourquoi vous le laissez pas sortir tout simplement ? Enfin, je comprends pas. » Et puis l'autre, c'était vraiment... Il était gentil, le gynéco, mais il était un peu... reste sur le côté.
Laissez-moi faire mon travail.
C'est ça. Vous savez pas de quoi il s'agit. Voilà.
Oui.
Et donc, du coup, il y avait ça. Moi aussi, ça m'a pas trop plu de savoir ça. Et puis après, je vois la sage-femme qui agite un espèce de produit, là, qu'elle m'asperge comme ça, très grossièrement, partout, au niveau de la vulve,
tout périnée,
voilà. Ouais. Et là, je sens donc avec cette plaie, c'est la première fois là que j'ai vraiment senti la plaie. Ça m'a piqué, c'était horrible. Et j'ai dit, mais ça me pique, arrêtez, enfin, je sais pas ce que vous faites. Et puis, personne ne m'a rien répondu, c'était... Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est que là, rétrospectivement, je vois tous les détails qui ne m'ont pas plu. Sur le moment, j'étais très partagée, comme je disais juste avant. Donc, je ne savais pas si c'était bien, si c'était mal, si c'était moi qui étais chiante. Mmh. Je ne savais pas, en fait. Donc, je fermais ma bouche. On me l'a posé quand même sur. On m'a fait du pot à pot. Je suis restée un moment avec lui, avec mon bébé. Et puis, à un moment, pour une raison que j'ignore, on me l'a pris. Ouais. Et puis on lui a fait tout un tas d'examens, machin, on l'a pesé, on l'a habillé, et moi je l'entendais pleurer, et ça me fendait le cœur. Mais je me disais, mais pourquoi on me le retire? Et il y a un podcast, un épisode de podcast, dans lequel il y a une personne que tu interviews qui dit qu'on lui a volé son ocytocine.
Ouais.
Et ben, Bénédicte. Oui, c'est ça. Et ben, exactement, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai commencé, à partir du moment où on me l'a enlevé, en fait, donc j'ai eu cette petite phase où j'étais très mal, je voulais le récupérer, et ensuite, quelques minutes après, je voyais la puéricultrice, il y avait plein de monde, il y avait l'obstétricien aussi qui était revenu un moment, la sage-femme, la pédiatre, enfin bref, et ils étaient toutes là, et je commençais à ressentir de l'amour pour toutes ces personnes, j'étais reconnaissante, ouais. Je me disais... Oh là là, mais c'est merveilleux. Mais j'étais dans un délire total. Et ça, je l'avais pas du tout noté sur le moment, ni plus tard. C'est en écoutant l'épisode que je me suis dit, mais c'est tellement ce qui m'est arrivé. C'est un truc de fou. Et du coup, après, quand je suis remontée dans la chambre avec mon bébé, j'avais l'impression, je me disais, mais c'est un inconnu. Alors, ça m'a pas empêchée de l'aimer, de créer du lien par la suite. Mais j'ai quand même eu cette phase qui a duré, je pense, 3 jours. Où pour moi, je me disais, mais il n'est pas à moi, c'est bizarre, je comprends pas, il me semblait inconnu, comme si on m'avait cassé en fait cette connexion avec lui.
Ça me fend le cœur, et je pense que c'est dans cet épisode avec Bénédicte où on se le dit, non, je crois que c'était dans un autre, peu importe, où on se disait, ils se rendent pas compte. Mais c'est très 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 grave en fait de faire ça. Enfin, les dépressions du postpartum, les problèmes d'attachement, enfin, ça va très loin, c'est pas juste j'ai du mal à faire un lien avec mon bébé. Enfin, ça va bien plus loin que ça, c'est que du coup tu vois, tu peux avoir moins envie de t'en occuper, tu peux être plus je sais pas, plus t'en fiches, et puis, enfin, foncièrement, on est dans une société où on manque d'ocytocine. Après, c'est mon truc de penser qu'il y aurait moins de guerre si on laissait les bébés accoucher, enfin, les bébés naître et les allaitements se passer. Enfin, voilà. Moi, je suis persuadée qu'on ne vivrait pas du tout dans le même monde, mais bon, bref. Mais donc, oui, ça, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a un moment donné par la suite où tu prends du recul ou est-ce que non, ton accouchement, en fait, il reste comme ça, puis tu. Non, tu vois, comment tu l'appréhendes dans les mois qui suivent, en fait?
Non, il reste comme ça. Voilà, je me dis que j'ai eu de la chance, honnêtement. Je me dis que, parce que j'entends par la suite d'autres personnes autour de moi qui ont accouché, ou, voilà, des témoignages, parce que souvent, quand on a un bébé, toutes les personnes autour de nous ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, alors moi, il s'est passé ci, moi, il s'est passé ça, machin. » Et puis après, il y avait aussi des personnes qui venaient d'accoucher après moi. Donc, voilà, j'ai eu... plein de retours, et je me suis dit, bon, bah, j'ai eu de la chance, ça va, ça s'est bien passé.
Ouais, j'ai pas eu de césarienne.
Voilà, il n'y a pas eu de complications. Mon bébé va bien. Alors, il y a juste quelque chose où c'est un gros point d'interrogation, c'est que il est né avec une partie du... Enfin, il n'est pas né comme ça. C'est que son crâne était aplati sur le côté, et il avait un mauvais positionnement du fait... Moi, je pense, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas les connaissances, mais j'ai cette intuition que si on lui avait laissé faire le tour, on ne l'aurait pas coupé dans quelque chose, et du coup, il n'aurait pas eu cette mauvaise position dès le départ qu'il a adoptée, et que d'ailleurs, pour l'allaitement, au départ, c'était un petit peu difficile, parce qu'il y avait un sein qu'il ne voulait pas prendre, parce que c'était pas confortable pour lui de tourner la tête dans ce sens-là. Donc, ensuite, on a dû l'emmener chez l'ostéo. Ça, ça s'est très bien passé. Son crâne s'est remis vite et tout, etc. Mais je me dis, on aurait pu zapper toute cette étape-là si, en fait, on l'avait simplement laissé sortir naturellement. Ce que, d'après mon conjoint, je lui fais confiance, il m'a dit, non, mais il sortait. Il fallait juste attendre un petit peu, quoi. Et donc, voilà, dans l'urgence, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai demandé aux sages-femmes que j'ai connues. Donc, j'en connaissais juste une pour ma première grossesse, et pour ma deuxième, j'en ai connu quatre. C'était un cabinet de quatre. J'ai demandé à chacune d'entre elles. Chacune m'a répondu non, ça n'a aucun rapport. Donc, je ne sais pas.
Moi, ce que j'entends et ce qui me semble faire sens, c'est que... Donc, je ne sais pas si tu sais, mais tu as plein de bébés qui naissent avec un côté aplati de la tête ou, tu vois, avec des formes un peu cheloues. Mm-hmm. Il arrive que les bébés sont positionnés d'une manière dans l'utérus qui fait que, eh ben, ils vont avoir, tu vois, il peut y avoir une marque comme ça ou une forme particulière et qui montre un peu que pendant l'accouchement, tu vois, ils peuvent avoir eu du mal à s'engager. Moi, ce que je lis, c'est qu'il y a eu une problématique avec la péridurale, avec l'immobilisation, qui fait que un bébé a forcément plus de mal à s'engager et donc peut avoir, tu vois, plus tendance à être dans une position qui est moins optimale et donc avoir ce type de marque au niveau de la tête. Encore que t'as plein de bébés qui naissent dans des conditions très bien, la personne enceinte était tout à fait mobile et il y a quand même des têtes qui sont moulées différemment. C'est complètement possible, mais dans ton histoire, c'est un peu ce que j'ai envie de lire, c'est que l'immobilité fait que peut-être que ton bébé, il n'avait pas une position qui était top, ça a pu donner une forme à sa tête, et ensuite, effectivement, au niveau de la sortie, clairement, je ne sais pas si c'est une question de la rotation, ou simplement, mais oui, de toute façon, de l'avoir tiré comme ça, ça ne fait aucun sens. Enfin, pour eux, ça en fait beaucoup, mais pas pour nous, et pas pour... Enfin, physiologiquement, quand tu mets du bon sens dedans, quoi. Mais oui, je pense que c'est tout ce processus, en fait, d'effectivement toute cette immobilisation qui a peut-être favorisé une mauvaise position du bébé, et ensuite le fait qu'il sorte comme ça, qui a pu jouer sur ça, et sur le fait que oui, il a eu du mal, comme tu dis, à être inconfortable d'un côté ou de l'autre, ça, c'est quelque chose qu'on entend mais hyper souvent. Et ça, c'est clair que c'est dû à... Bah, à tout ça.
Oui. Bah, en fait, mon deuxième, c'est comme ça que je l'ai réalisé, parce que mon deuxième, il est né avec le crâne un petit peu déformé, mais ça s'est remis très vite tout seul, en quelques heures, honnêtement. Je voyais déjà une différence. Alors que pour mon premier, il y avait vraiment comme un espèce de torticolis. Il était bloqué vraiment d'un côté, et le crâne, au début, quand il est né, n'était pas plat. Il était plutôt normal. Et il est devenu plat du fait qu'il reste constamment dans la même position, bloqué d'accord. comme ça, donc sur le dos, la tête toujours collée sur un seul côté. Et du coup, l'ostéo que je suis allée voir, je crois que lui m'a dit que c'était pas impossible, mais il se prononçait pas.
C'est difficile à dire.
Oui, bien sûr. Après, je cherche pas à incriminer le gynéco ou quoi, mais moi, je pense que ça a joué un rôle dans ce problème de torticolis.
Ouais, je comprends.
Je pense qu'on aurait pu éviter.
Bien sûr. Non, mais je pense aussi. Parce que c'est hyper violent, mine de rien. Donc, toi, tu l'as pas vu, tu l'as un peu ressenti, mais ton conjoint l'a vu. Mais donc, en gros, quand le bébé sort sa tête, ensuite, il fait une rotation pour pouvoir passer correctement dans le bon axe et pour sortir. Effectivement, si tu laisses pas le bébé faire ça, bah, tu vas forcer d'une manière... Ou, je sais pas, c'est les épaules qui se mettent mal ou quoi, mais c'est sûr que tu peux engendrer un trauma physique. Donc, tu vois, ce qu'on entend, un traumatisme physique, ça se répare, mais moi, je pense que ton instinct, il te dit vrai.
Oui. Même si tout le monde me dit faux, mais... Enfin, que c'est
mais
faux.
Mais ils y connaissent rien. Enfin, pardon, les soignants qui nous écoutaient, mais vous n'y connaissez rien. Mais je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, enfin... Il y a plein de soignants qui reconnaissent ça. Que oui, les heures sur la physiologie, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et puis, qu'est-ce que c'est que la physiologie qui leur est enseignée? Voilà. Ils n'ont jamais vu un bébé naître naturellement. Et donc, je le rappelle ici, parce que c'est quand même important. 99% des naissances se passent à l'hôpital en France. on est à 85% de péridurale. 85%. Les soignants aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'un accouchement sans péridurale parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le vivent pas. Donc non, ils ne peuvent pas savoir. Non. Et il faut arrêter de dire « mais si on sait, mais si on sait ». Non, je suis désolée. Bref. Donc oui, moi je pense que ton instinct, je pense que t'es dans le juste. Mm. Et t'as droit d'avoir envie d'incriminer le gynécologue.
Ouais, j'avoue, j'ai secrètement envie, mais bon, à quoi ça servirait de toute façon ? Aujourd'hui, je parle.
Mais toi, dans la tête ?
Oui, en fait, pour que les choses soient bien en place, comme tu dis, remettre l'église au milieu du village, ça oui, oui, pour moi, ça a du sens. Mais en fait, c'est juste que maintenant que je le sais, mais jamais plus ça se reproduira.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça aussi, bien sûr.
Et ça,
bien
c'est sûr. Acté. Et donc, du coup, pour répondre à ta question de départ, je suis restée que là-dessus par rapport à mon accouchement, comme quoi il y avait ce problème de torticolis qui m'avait gênée. Le vol de cytocine, ça, j'en ai pas vraiment eu conscience. Par contre, je l'ai remarqué qu'avec mon deuxième, je les ai allaités tous les deux. Le premier, je l'allaitais, mais j'avais pas autant de patience, je pourrais dire, que pour le deuxième. Je pense que c'est parce qu'on m'a coupé la connexion. Le deuxième, j'ai toujours avec moi, personne ne me l'a retiré ou quoi. J'avais beaucoup plus de patience, j'avais très peur d'allaiter à nouveau. Pour moi, c'était important d'allaiter, donc je l'aurais fait de toute façon. Mais l'allaitement au départ, le premier mois et même le deuxième, c'était dur psychologiquement parce que mon premier bébé ne dormait pas beaucoup la nuit. Très 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 peu, même sur 24 heures honnêtement il dormait pas énormément, moi je dormais très peu et pour moi j'étais comme esclave honnêtement, j'étais toute seule en plus avec mon conjoint, on est vraiment isolés, donc j'avais pas trop d'aide ou quoi, bon de lui oui mais bref.
Ça suffit pas.
Voilà c'est ça.
Non.
Et du coup pour le deuxième en tout cas, j'étais à peu près dans les mêmes conditions avec un enfant en plus. Je l'ai beaucoup mieux vécu et je pense que c'est dû à cette connexion que j'ai eue qui n'a pas été coupée.
Ouais. J'ai envie de revenir sur un truc et si tu veux, on coupera, d'accord. Tu dis que t'as pas été traumatisée par ton premier accouchement. Mais du coup, je me demande qu'est-ce qu'on met derrière le traumatisme parce que tu racontes quand même des choses que t'as mal vécues et des choses qui semblent t'avoir marqué toi.
Tu veux dire quelle est ma définition du traumatisme ?
Alors, je sais pas si c'est là que je veux en venir. Enfin, et j'ai pas envie. Donc, je vais dire ce que j'ai en tête parce que je veux pas. Je veux pas te faire dire quelque chose. Enfin, je veux pas être malhonnête dans ma pensée ou dans ma manière de m'exprimer ou de l'idée cette conversation. Mais moi, je me demande, est-ce que tu mets pas le mot traumatisme alors qu'en fait t'as été traumatisée ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je comprends.
Et ça se trouve, pas du tout, ça se trouve, tu vas me dire, franchement, non, foncièrement, c'est pas ma définition d'un traumatisme. Et puis ça se trouve, dans 10 ans, tu te diras, peut-être qu'en fait c'était un traumatisme et peut-être jamais, tu vois. Mais en fait, je fais ce parallèle parce que c'est un sujet aussi que je trouve vraiment important et qu'on aborde très très peu. C'est ce truc de. Parfois, tu vis un traumatisme et tu t'en rends pas compte.
Oui.
Moi, j'ai compris que j'avais été traumatisée de mon premier accouchement pendant ma deuxième grossesse. Et en fait, tellement rien ne faisait sens. Et c'est un peu ce que tu racontes aussi pendant ton premier accouchement. Rien ne faisait sens. Donc, j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui m'était arrivé. Ce qui est quand même chelou. Normalement, tu sais ce qui t'arrive dans la vie. Tu traverses la route, c'est neutre. Tu as une conversation avec une copine, c'est cool. Une conversation avec une autre personne, c'est désagréable. Et là, tu sais, t'es dans un truc où tu sais pas ce que t'es en train de vivre, tu le comprends pas. Et donc, moi, pour parler de mon truc, donc j'étais dans un gros nuage comme ça de rien comprendre. Et puis j'avais la dépression du postpartum. Enfin bon, j'étais dans un gros nuage. Puis un jour, je sors du nuage et je me dis, mais en fait, je suis complètement traumatisée par ce qui m'est arrivé. Mais ça m'a pris 2 ans et demi de le comprendre. Et moi, ça m'a pris 2 ans et demi. T'as des personnes à qui ça peut prendre 6 mois. T'as des gens, ça peut leur prendre 20 ans de comprendre le truc. Et puis t'as des personnes qui, foncièrement, n'ont pas vécu de traumatisme. Je veux pas dire que t'en as vécu un, mais. C'est quand même un truc qui m'interroge de se dire, parfois on vit des trucs et on n'arrive pas à poser un mot dessus. Je sais pas très bien où je veux aller, mais
oui.
tu vois un peu.
En fait, pour moi, le traumatisme, ça va être quand on n'a pas voulu que ça se passe comme ça, forcément, hein, évidemment, c'est logique, mais c'est surtout que on nous a pas préparé. Alors c'est vrai que ça correspond, la définition que je donne, à ce que j'ai raconté avant, mais je dirais que ma réponse, ce serait, j'étais à moitié traumatisée, à moitié, parce que j'avais une part consciente de, en fait, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je leur fais confiance parce que bah, moi j'avais la croyance à ce moment-là, qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, que je n'avais pas du tout le pouvoir d'accoucher. Donc je leur ai remis ce pouvoir entre les mains. Et là où je me suis sentie traumatisée, on va dire, même si je m'en suis bien remise, c'est qu'on ne m'expliquait rien. Ouais. Et en même temps, j'avais encore cette croyance aussi, à cette époque, que... ils n'avaient pas le temps de m'expliquer que moi, ben voilà, ils vont pas me faire un cours de médecine ou je sais pas quoi. Donc j'avais vraiment une, j'étais très dure avec moi. Donc je pense que le traumatisme était plutôt indirect, des choses que je trouve pas normales. Et honnêtement, ça s'éclaircit de jour en jour, en fait, de jour en jour. Je me rends compte, mais ça c'est pas normal, ça m'a pas plu. Et donc j'ai les larmes aux yeux quand je parle de la poche des os, ce qui n'était pas le cas, je sais pas, 6 mois après mon premier accouchement, je pouvais en parler comme ça, oui, bon, on me l'a percé, c'est pas grave. Et là, aujourd'hui, je pense que ce que tu veux dire, c'est que oui, effectivement, je me rends compte progressivement qu'il y a eu peut-être des micro-traumatismes dans le processus, et que peut-être qu'au final, je vais conclure, oui, je suis traumatisée, mais après, je trouve que ça n'a pas été une boucherie, par exemple, comme j'ai pu entendre ce terme pour d'autres femmes. Ça a été propre, je dirais. C'est juste que ben, je me dis que j'ai été consentante dans mon ignorance. Voilà, je ne savais pas. Et je ne sais pas comment positionner ces deux termes.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est très juste ce que tu dis, c'est que c'est tellement difficile. De se positionner, enfin, et peut-être que c'est moi aussi qui veux mettre des mots, et on devrait pas vouloir mettre des mots, et enfin, ce qui compte c'est ton ressenti à toi, mais enfin, tu vois, c'est pareil, est-ce que c'est mieux de laisser un trauma enfoui, tu vois, où tu t'en rends pas compte, ou est-ce que c'est mieux de le mettre au jour pour peut-être le guérir? Et donc là, il n'y a pas une réponse, ça dépend des gens et ça dépend du cheminement, et c'est pas une personne externe. Je sais pas, j'allais dire, c'est pas une personne extérieure de faire surgir le trauma et la prise de conscience et tout. Mais bon, parfois, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on voit des psys et que oui, ça fait comprendre des trucs. Ah, je sais pas. J'ai envie de rebondir sur un truc et ça se trouve, je suis lourde et je couperai, ou alors tu me diras.
Non, il n'y a pas de souci.
Mais tu vois, tu dis, ça n'a pas été une boucherie. Pourtant, tu m'as raconté un truc horrible sur la sonde urinaire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, que
donc, il y a...
Et il y a des incohérences.
Alors, je sais pas si c'est incohérence. Moi, j'aime bien parler de la dissonance cognitive, et c'est un mot hyper compliqué, mais... Et parce que, vraiment, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, et je pense qu'on est hyper nombreuses, de se dire, j'ai pas vécu un truc horrible.
Oui, oui, ça va, ça va.
Et puis après, tu sais, tu racontes tous les trucs.
Et on se dit, mais attends, elle est sérieuse.
Mais c'est pas, elle est sérieuse, mais c'est vraiment... tu vois, les choses, elles sortent, et là, c'était pas une boucherie, mais... C'était quand même... Tu vois, il y avait quand même des trucs que tu as racontés, donc... Et donc, c'était là où je voulais en venir, c'est que, donc il y a la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand ton cerveau, il comprend pas. Il y a des choses qui sont antithétiques, qui sont complètement opposées, mais qui se sont passées en même temps, et tu sais pas quoi en faire. Et moi, je trouve que c'est ça qui nous garde aussi dans un truc, je sais pas, où t'es, ouais, tu vois, t'es inconfortable, et puis peut-être pas bien et tout. Et donc, oui, c'était pas une boucherie, mais on m'a déchiquetée. J'ai pas vécu un truc horrible, mais j'ai les larmes aux yeux quand on a rompu quand je raconte la poche des os et puis qu'on me parlait mal. Enfin, tu vois, et je trouve que c'est hyper intéressant. Et là, tu vois, je t'en parle comme si j'observais de loin et que je faisais une étude et tout. Et ça se trouve, il faut pas faire ça comme ça. Je sais pas, peut-être que c'est pas.
Bah, ça me fait prendre conscience aussi, en fait. Parce que moi, j'ai jamais raconté vraiment en détail. Comme je te raconte à toi, aussi, j'ai jamais raconté avec la conscience que j'ai aujourd'hui, parce que c'est comme quelque chose que j'ai vécu il y a un moment déjà, donc il y a 3 ans. Du coup, je suis un peu passée à autre chose, en fait. Et puis parfois, ça m'arrive de... Quand quelqu'un me demande, parce que moi, j'ai déteste vraiment raconter mon accouchement alors qu'on ne m'a rien demandé, même si la personne en face de moi vient d'accoucher, même si elle est enceinte, même si je ne sais pas quoi, je vais pas lui dire alors tu sais moi mon accouchement Non, je déteste faire ça, donc vraiment j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en parler en fait, parce que oui j'ai en tête une personne qui m'a demandé sincèrement. Mais sinon, non, en fait, les gens s'en fichent, quoi. Pourquoi faut raconter ?
Ça dépend qui. Moi, j'adore ça.
Oui, mais du coup, la personne pose des questions ou alors elle fait comprendre qu'elle est intéressée. Et donc oui, là, moi, sûr, je parle, il n'y a aucun souci. Mais le fait d'en parler maintenant, je prends conscience. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui, en fait, je pourrais dire m'ont traumatisée. Mais j'ai encore ce petit biais où je me dis, non, mais attends, il y a quand même des gens qui... vivre des gros traumatismes et toi c'est rien à côté, j'ai un peu ce truc là,
oui.
Tu vois, donc je pense que c'est ça qui bloque dans ma tête, c'est pour ça que je dis j'étais à moitié, parce que peut-être qu'un jour je dirais oui je l'étais complètement, je ne sais pas, mais,
mais
c'est un vrai sujet, oui.
C'est hyper intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse toute faite qui fonctionne pour tout le monde, et enfin voilà, et ça se trouve, enfin... T'as juste été, et je sais pas ce que ça veut dire être à moitié traumatisé, mais enfin, tu vois, ça se trouve, c'est ta réalité, et ce sera toujours comme ça que tu le vivras, et ça se trouve, ce sera très bien, et enfin, et voilà.
Après,
et...
ça évolue pas mal quand même. Hein.
Donc, ouais, on est d'accord. Hein.
Moi, je suis ouverte, je suis pas en train de dire que ce que je dis maintenant est gravé dans le marbre. Avant, je disais que je n'étais pas du tout traumatisée. Après, j'ai. Bah, là, on en parlant avec toi. Ah, je dirais à moitié parce que j'ai ce truc où je me dis, ouais, quand même, j'étais. Consentante, mais en même temps j'étais dans l'ignorance. Est-ce que vraiment c'est du consentement?
Non.
Bah non, oui, on est d'accord.
Ah ouais.
Mais j'ai pas encore passé l'étape où je me dis non, mais en fait on t'a juste pas du tout. Enfin, on t'a plutôt présenté les choses d'une certaine façon, ce n'est pas la réalité. Et donc tu es quelque part victime de ça. Et oui, même en le disant, tu vois, là je me dis ça fait bouger des trucs à l'intérieur de moi.
Et c'est pour ça... Et donc, je pense que je suis pas quelqu'un de subtil, et je pense que parfois, je vais trop fort et tout, mais je me dis que parfois, il faut aller fort. Et je sais que les gens font pas trop ça, et, parce que voilà, il y a une pudeur, on veut respecter le vécu des gens, et puis enfin, voilà, leurs émotions et tout. Mais je me dis... Enfin, moi, je sais que je pars pas d'un endroit où j'ai envie de te brusquer ou d'être, tu vois, ou d'être... Peut-être que j'ai envie de te brusquer. C'est peut-être non, pas si vrai. Mais tu vois, je pars d'un endroit où si j'ai envie de te brusquer, c'est... Enfin, c'est de la bienveillance, tu vois, il n'y a pas de... Mais... Et donc, je me dis que peut-être que, tu vois, peut-être que c'est OK que je brusque, mais parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait très peu, et si ça se trouve, il y a des gens qui vont écouter le podcast qui vont se dire « Mais Roxane, elle va trop loin, ça se fait pas, les questions et tout, mais... » Moi, je sais que je bénéficie beaucoup de conversations profondes comme ça et de pas rester juste en surface.
Oui.
Parce que j'aurais pu, tout à l'heure, tu m'as dit, à moitié traumatisée, et puis c'était pas une boucherie. Et enfin, tu vois, ça m'a fait tilter. J'ai hésité à me dire, est-ce que je creuse ça ? Mais je sais pas. Enfin, bon, bref. Je me disais que c'était important de creuser et enfin, on pourra en reparler en off après.
Oui, bien sûr.
Bon, t'es dans cette entre-deux grossesses. Vous aviez envie d'un deuxième enfant ?
Oui.
D'accord. Et. Donc, comment est-ce que tu chemines, là, de te dire, donc, j'ai eu ce premier accouchement, je tombe enceinte, comment tu chemines pour ta deuxième grossesse ?
Alors, déjà, je me dis que, oui, j'aimerais accoucher à la maison.
Okay.
C'était juste... j'ai oublié de parler d'une toute petite chose pour ma première grossesse. J'ai été suivie par un gynécologue tout le long de ma grossesse. Je n'avais... Comme je disais, les sages-femmes, pour moi, c'était à quoi ça sert.
Ouais.
À la fin donc, de ma grossesse, il me dit, il me prescrit une ordonnance pour aller voir une sage-femme pour qu'elle me fasse un monitoring toutes les semaines ou je ne sais plus quoi. Et là, je me dis, mais comment ça, je dois avoir une sage-femme ? Il ne m'avait rien expliqué du tout.
Ouais.
Donc, j'en cherche une près de chez moi. Je tombe sur une sage-femme adorable. Elle était vraiment très sympa. Et en fait, je découvre un tout autre monde. Je me dis, waouh, mais c'est. Je débarque, je me dis, mais c'est incroyable, mais j'aurais dû savoir ça beaucoup plus tôt, en fait, parce que j'aurais tellement aimé ne pas être suivie par ce gynécologue qui me reçoit, qui ne dit rien, qui me faisait une échographie à chaque rendez-vous. Voilà, et puis qu'il baragouinait dans. comme ça dans sa barbe, il me parlait jamais vraiment en me regardant dans les yeux, c'était oui, oui, ça va, bon, allez, allez, au revoir, à la semaine prochaine, ou à l'année, pardon, au mois prochain, voilà, et puis donc je découvre cette sage-femme et tout, puis là je me dis, oh, mais je lui dis, alors les accouchements à la maison, comment ça se passe et tout, et puis là elle me dit, non mais c'est beaucoup trop tard, enfin, après, elle a pas été, elle m'a pas dit que c'était impossible. Voilà, elle m'a pas dit non, vous êtes folle ou quoi. Mais elle m'a dit, c'est quand même très tard. Et du coup, j'étais un peu paumée. Alors, elle m'a donné l'adresse donc de ce cabinet de quatre sages-femmes qui, elle m'a présenté ces sages-femmes comme des professionnels qui t'accompagnent dans un accouchement physiologique. Et au départ, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, je pense que c'est moi qui ai mal compris, je pensais que c'était dans une maison de naissance. Donc je me dis, ah oh, mais trop bien, donc j'essaye, donc pendant la fin de ma première grossesse, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis en fait, comme j'étais engagée à accoucher à l'hôpital et tout, puis qu'il fallait que je revoie tout mon mindset en fait, que je revoie toute ma façon de penser et tout, j'ai dit, oh, je sais pas. Ouais, donc, pour ma deuxième grossesse, eh ben, je les ai appelés. Je suis retournée voir cette sage-femme adorable. Je lui ai dit, bah, en fait, moi, j'aimerais vraiment accoucher chez moi, même pas dans une maison de naissance. Et là, elle me dit, mais c'est pas une maison de naissance, c'est à l'hôpital, dans une salle nature, de toute façon. Je dis, ah bah, encore moins, alors. Donc, moi, je veux accoucher chez moi. Alors, elle me donne le contact de deux sages-femmes qui sont assez loin de chez moi, parce que j'habite vraiment dans un trou paumé, près de Montpellier. Donc voilà, la première qui exerce, alors j'avais une intuition, je la sentais pas, mais bon, je me suis dit j'ai pas trop le choix, donc je la contacte, elle me dit que je suis beaucoup trop loin, que c'est impossible. Je dis bon, tant mieux, ça, je la sentais pas, je sais pas pourquoi. Et la deuxième que j'appelle, en fait elle n'exerce plus, et ça m'a fait trop mal au cœur, parce que elle, je la sentais, mais tellement. Et elle me dit qu'elle a été obligée d'arrêter parce qu'elle a eu un problème. En fait, il y a un bébé qui est décédé. Mais alors, elle ne m'a pas du tout expliqué ce qui s'est, enfin, tout le détail. Mais elle m'a juste dit, voilà, j'ai dû arrêter. Je n'exerce plus, ça me fend le cœur, etc. C'est trop compliqué, les assurances, machin. Voilà. C'est comme une sorcière qu'il faut brûler sur le bûcher, quoi. Ouais, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit. Et en fait, j'ai lu un article de presse sur internet qui parlait de cette sage-femme, où c'est mon conjoint qui l'avait trouvée, je me rappelle plus exactement. Et en fait, l'histoire, c'est pas que le bébé est mort à la maison, hein. C'est qu'à un moment, la personne, je crois qui accouchait, a voulu aller à l'hôpital, un truc comme ça. Donc en gros, elle est pas responsable. De toute façon, dans tous les cas, elle n'est pas responsable. Moi, j'ai aucun problème avec le sujet de la mort. Pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Et parfois, bah, en mettant au monde la maman ou le bébé ou les deux, ou peu importe les conditions. Enfin, j'étais totalement au clair avec ça. Et j'avais même envie de lui demander, en fait, est-ce qu'en off, voilà. Et honnêtement, j'ai pas osé lui demander, mais je sentais bien qu'elle avait tourné la page. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec ce cabinet de 4 sages-femmes que je décide quand même de contacter, qui est quand même assez loin de chez moi, mais bon, je me dis, j'ai pas envie de retourner à l'hôpital. Et aussi une petite chose, que ça j'ai pour mon premier accouchement, quand on accouche, ils font des prélèvements sur le cordon, sur tous ces trucs-là, et ça m'avait pas trop plu. Okay. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Hein.
C'est pour les cellules souches ? Non, c'est pas ça.
Un truc comme ça, ouais. D'ailleurs, mon conjoint avait demandé pourquoi vous faites ça. Et puis, c'était reste sur le côté, tu nous gênes. Et
c'est
donc,
pas tes oignons.
Voilà. Et puis, j'ai pu récupérer le placenta pour mon premier bébé.
C'est fou,
que,
ça
oui, il se trouve que la sage-femme qui était très, très directive et qu'on aimait pas trop, eh ben, par chance, elle avait fait ses études à La Réunion. Et là-bas, elle disait que c'était tout à fait normal de récupérer le placenta, que ça nous appartenait. Donc nous, on a fait « Ok, super, on le prend, voilà. » Nous, on l'a enterré.
Trop bien.
J'ai fait comme toi, une partie en tout cas. Voilà, j'ai consommé une partie. Bref, je m'égare un peu. Mais du coup, j'avais aussi cette volonté très forte de récupérer le placenta aussi pour mon deuxième. Et de ne pas avoir qui prennent des trucs sur moi quelque part.
Hein. Bien sûr.
Tu vois, j'avais pas du tout envie de ça. Donc là, l'hôpital pour moi, c'était mort. Voilà. j'avais comme malgré tout ce truc de ben bon, si j'ai pas le choix, j'irai. Voilà. Mais je ferai tout pour ne pas y aller. J'avais plus envie que ce soit médicalisé, j'avais plus envie de toutes les échographies, ça m'a saoulée. Donc je suis allée voir ces quatre sages-femmes. Quand je suis tombée enceinte, ça a été très rapide. Donc, à partir du moment où j'ai décidé que c'était le moment, je suis tombée enceinte directement. Voilà, et puis elles étaient très sympas, elles étaient un peu en mode, thérapie alternative, elles faisaient des petites méditations, tout ça, c'était super sympa. Mais je sentais que ça allait pas très loin dans leur suivi, ça restait un petit peu. En fait, elles prenaient beaucoup en considération la personne, donc moi, mon conjoint, on a eu une séance où en fait, il y a une des quatre, elles travaillaient ensemble, hein, vraiment. Elle nous demandait nos histoires respectives, en fait, notre enfance, etc. Machin. Je trouvais ça très sympa, franchement, c'était génial. Elles étaient super. Moi, alors après, je suis arrivée, j'ai dit, voilà, moi j'ai eu très mal, j'ai eu la péridurale, ça m'a soulagée pour mon premier. Je veux savoir comment on gère la douleur. Et alors, c'était ma question à chaque séance, jusqu'à la fin. J'ai eu une fois une réponse d'une qui m'a dit, comment ça s'appelle ? Les vocalises.
Ouais.
Bon, j'étais pas convaincue, honnêtement. Je suis partie avec un a priori, peut-être que j'ai mal fait, et que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, mais j'avais pas du tout confiance en ce truc. J'avais encore le souvenir très vif de ma douleur.
Ouais.
Et je me disais, oh, mais faut vraiment que je trouve un moyen de ne pas avoir mal et tout. Bon, voilà, en gros, je suis... C'est...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
C'était comme ça pendant toute ma deuxième grossesse et j'étais honnêtement très saoulée, même si elle était sympa, d'aller au rendez-vous. Ça me gonflait vraiment. Pour moi, j'étais bon, allez, je sais que mon bébé va bien. J'avais déjà mon expérience de la première grossesse, donc j'estime que j'avais gagné en maturité,
bien
en fait.
Et en connaissance.
Et en connaissance, ouais. Et j'avais toujours pas... Enfin, alors, moi, j'aime pas trop lire, honnêtement. Donc, toutes les documentations, j'avais la flemme. J'avais pas envie. Et là, je suis tombée sur tes vidéos. Et j'étais à 8 mois et demi de grossesse. Et donc, j'avais TikTok. C'était mon petit plaisir du soir où j'étais tranquille, j'avais rien à faire. Je me dis, tiens, je regarde. Et là, je tombe sur... ta vidéo sur les positions pour l'accouchement physiologique. Je crois que dans mon souvenir, il y en avait trois principales.
Ouais.
La fente, la accroupie,
ouais.
Le quatre pattes avec le bassin ouvert et tout. Et là, je me suis dit, wow. Mais j'ai pris une claque, en fait. Mais vraiment, alors, déjà, le sujet, déjà, c'était important. Toi, ton énergie, comment tu expliquais les choses. Ah, vraiment, j'étais... je me suis dit, mais c'est incroyable, mais on m'a jamais appris ça. Pourtant, ouais. j'ai demandé. Alors, j'ai peut-être jamais demandé pour les positions spécifiquement, mais j'ai compris. C'est comme si, en fait, en regardant ta vidéo, j'avais intégré tout ce que ça impliquait, tu vois, sans avoir encore les connaissances, mais j'avais intégré, ah mais oui, mais en fait, s'il y a des positions pour accoucher physiologiquement... Mais du coup, il y a peut-être des choses pour la douleur ou machin, ou je sais pas quoi, enfin bref. Et puis, alors, je me rappelle plus, cette vidéo m'a marquée parce que je l'ai regardée 36 fois. Voilà, mais après
c'est toi les 2 millions.
Oui, c'est moi. Et puis du coup, j'ai regardé tout ton contenu à ce moment-là. Et comme on disait tout à l'heure, avant qu'on commence, tu commençais en fait. C'était en, du coup, alors je sais plus si c'était en octobre, novembre. Bah si c'était 8 mois, c'était novembre.
Ouais.
2022.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, t'avais pas encore beaucoup de vidéos, mais il y en avait quand même pas mal. Il y avait une vidéo aussi d'un accouchement physio en live, en fait, où tu voyais la femme qui récupérait son bébé alors qu'elle était enfante.
Ça a été censuré, ça.
Ouais, mais j'ai pu la voir.
Cool.
Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Mmh. Et quand j'ai vu aussi les vidéos où on voit les bébés qui sont en les pieds devant... Ouais. Tu vois, qui la femme a peu accouché comme ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable, comment on nous ment. Parce que ça semblait tellement facile. Et donc là, j'ai été voir ton podcast, j'ai tout écouté. Je me rappelle quand j'allais notamment au rendez-vous pour la sage-femme, j'écoutais dans la voiture.
Trop bien.
Donc j'étais, mais c'est... Un monde s'est ouvert, voilà. Et donc là... pour la douleur, je me rappelle plus le process, mais je sais que tu disais que t'avais des femmes qui n'avaient pas mal, que toi, tu n'avais pas eu mal pour ton deuxième accouchement. Et en fait, moi, je me suis dit, si j'ai mal, je l'affronterai, cette douleur. Voilà, je vais l'affronter. En fait, je crois que ce qui me fait le plus mal, c'est de chercher à l'éviter.
Mmh.
Tu vois, de se dire, mais il doit y avoir un moyen pour ne pas avoir mal et tout. Et je dirais, je l'affronterai. Et parallèlement à ça, il y avait mon conjoint qui a une amie qui avait accouché il y a un moment déjà, après mon premier, tu vois, donc entre les deux. Et elle avait un petit remède homéopathique, en fait. C'était, il y avait un protocole, fallait prendre... tel et tel granulé, ouais. Donc à partir d'un mois avant. Bon, honnêtement, moi je crois en l'homéopathie, bon voilà, j'ai rien contre, mais j'étais pas franchement motivée, mais après je me suis dit, bon, pourquoi pas. Il y avait notamment des granulés pour la douleur, enfin contre la douleur, je me rappelle plus des noms. Et je me suis dit, ok, je vais jouer le jeu, je fais le truc. Donc j'ai fait ça vraiment correctement. Et le truc incroyable, c'est que il y avait deux trucs d'homéopathie, je ne sais plus comment appeler ça, spécifiques pour la douleur.
D'accord.
Et en fait, parce qu'il y avait, peut-être une vingtaine à acheter.
Oh,
et c'était vraiment énorme, hein, parce que c'était par rapport à un mois avant et après tout pendant l'accouchement. Et il y avait donc un moment pendant l'accouchement, s'il y a douleur, il faut prendre ça, etc. Et il y en avait deux, et le pharmacien ne les a pas mis. Il n'y avait pas. Il avait tout mis, sauf les trucs qui concernaient la douleur. Et en fait, moi, j'ai vu comme un signe. Je me suis dit, de toute façon, peut-être ça ne m'aurait même pas aidé, je ne sais pas. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est tellement mon sujet d'avoir peur, d'avoir mal, mais je vais l'affronter, voilà. Et donc, il y a mon conjoint qui me dit, mais je vais aller t'en acheter, c'est pas grave. Et je lui dis, non, on va faire 100, voilà, on va faire 100, c'est comme ça et tout, machin. Et puis alors là, j'ai regardé ton contenu et du coup, je commençais à visualiser, tu vois, je visualisais, comment ça va se passer, ma salle de bain, je vais l'organiser comme ça, je vais mettre un drap ou une alaise, on avait mis une alaise, tu vois. Et puis je vais faire... j'avais ce truc j'avais le rendez-vous à l'hôpital, tu sais, donc ça c'était un mois après t'avoir connu, j'avais ce rendez-vous avec le gynéco, voilà.
Parce que c'était à 9 mois du coup là, c'était à terme, non, ce rendez-vous?
Ouais, c'était, alors dans mon souvenir c'était vers le 16 décembre, un truc comme ça, et du coup mon terme il était déterminé, j'ai accouché le 9 janvier, mais c'était genre une semaine après, je sais plus exactement.
D'accord.
Donc, vers le mois de décembre, là, je vais là-bas. Et au début, je me dis, est-ce que j'annule? Franchement, j'étais en mode rébellion totale, tu vois. Je voulais plus rien faire de ce
qu'on... C'est pas de ma faute.
Et puis, il y avait ce truc en moi, je me disais, bon, écoute, calme-toi, voilà. Tu vas accoucher chez toi, ça, c'était une certitude, voilà. Je pense que tu dois jouer le jeu, juste pour ton confort personnel, en fait. Qu'on ne te prenne pas la tête, parce que c'est tout frais. Toutes tes connaissances que finalement tu m'as transmises, c'était tout frais, j'avais pas encore assez d'expérience là-dedans, donc je me disais, j'ai pas envie de gérer l'extérieur en plus, tu vois, et la pression qu'on peut me mettre. Donc du coup, J'ai dit, je vais à ce rendez-vous, je m'inscris, je fais le rendez-vous anesthésie, machin, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allée à ce rendez-vous et là, heureusement que je te connaissais, heureusement que j'avais regardé ton contenu parce que le gars, il a démonté assez clairement mon projet, on va dire. Alors, je ne lui ai pas du tout dit que je voulais accoucher chez moi, évidemment, mais j'avais ce projet de sa nature, etc., etc. Et en fait, donc c'était un jeune, très jeune, je pense qu'il avait 30 ans à peu près mon âge. Honnêtement, il était vraiment très jeune et il était, je dirais à fond dans le système, quoi. Donc il voit mes analyses, j'avais le streptocoque.
Oh.
Voilà. Alors, du coup, heureusement que j'ai un conjoint aussi qui me soutient énormément, qui est très ouvert sur toutes les médecines alternatives, toutes les autres informations aussi, juste pas forcément médecine alternative, mais les autres informations qu'on a sur les maladies, etc. Il s'intéresse beaucoup à ça. Il a lu des articles, etc. Il m'a dit les antibios par intraveineuse ne garantissent pas une non-transmission, en fait, au bébé. Et il dit que, enfin, il me disait les antibiotiques comme ça dans le sang, ça va directement en lui. Il vient de naître. Enfin, c'est pas ok, quoi.
C'est pas anodin.
Voilà. Donc moi j'étais ok, c'est pas un problème, mais on me le présentait comme quelque chose de très grave, vraiment. Hein. Oui, et donc lui m'a dit, oh, mon Dieu, vous avez le streptocoque B, je crois, c'est comme ça. Oui. Il peut mourir, il va mourir d'un problème respiratoire. Voilà, il me disait un problème respiratoire. En plus de ça, j'avais une mycose. Parce que bon, ça, c'est le truc que j'ai pendant la grossesse. Les deux, j'ai eu ça. Et il me disait, oh là là, mais il n'y a rien qui va. Rien. Voilà, c'est catastrophique. Pourtant, tout le reste était nickel. Enfin, je n'avais pas une grossesse pathologique ou quoi. Il me dit il regarde mes analyses de sang. Et puis, j'ai toujours eu des plaquettes assez basses par rapport à leur moyenne. Et là, il m'a fait faire une batterie d'examens parce qu'il m'a dit que j'avais un très fort risque hémorragique, que j'allais mourir, clairement. Il m'a dit, c'est quand même pas mal votre projet d'accouchement physio parce que comme ça, ça nous évitera d'avoir recours au forceps ou je sais plus quoi. Parce que ça, il l'a reconnu. Hein. Il a dit, ça entraîne des risques hémorragiques quand même. Voilà. Et puis là, il m'a fait tout un speech parce que je lui ai demandé... qu'est-ce que j'ai osé lui demander? Je ne sais plus ce que je lui ai demandé. Mais je sais qu'à un moment, il m'a fait un speech en me disant que, en gros, le personnel médical, donc lui, les sages-femmes et tout le... Voilà. Ils étaient absolument nécessaires pour l'accouchement d'une personne, qu'il fallait que j'aie 100% confiance en eux, que... et puis quoi encore? Les femmes, elles vont accoucher chez elles toutes seules. Je te jure qu'il m'a dit ça. Il m'a dit ça avec
et
un...
Et puis quoi encore?
Mais oui, il m'a dit ça avec un air hyper hautain. Et honnêtement, c'est bête, je me rappelle plus de la question. C'était une question anodine. Je crois que c'était par rapport au streptocoque. Je lui avais dit, mais est-ce que vraiment... Oui, c'est ça que je lui ai demandé, ça y est, ça me revient. Je lui ai dit, on m'a dit que le streptocoque pouvait apparaître et puis ne plus être là. Et puis ça se trouve, il est là maintenant et puis il sera pas là le jour de la naissance de mon bébé. Et là, il a dit, ah non, mais non, le streptocoque, il est là, le risque est là, il faut les antibiotiques. Il m'a fait la liste de tout ce qu'il fallait, machin. Et là, il m'a fait tout un speech parce qu'il a juste... J'ai osé poser une question dérangeante, visiblement.
Ouais.
Et donc, ce speech a duré 20 minutes. 20 minutes, j'avais mon téléphone. Je me rappelle, j'ai regardé, j'ai dit, attends, ça fait 20 minutes qu'il parle, là. Tout seul. Ouais. Voilà. Et donc, il s'est dit, les femmes qui vont accoucher toutes à la maison, mais... allô, quoi. Ouais. On fait pas ça. C'est les sauvages qui font ça. C'était un peu ça, le fond de son discours. Ouais. Et heureusement que je te connaissais. Et heureusement aussi que mon conjoint n'est pas du tout là-dedans. Mais le fait d'avoir une autre femme, en fait, une femme qui a vécu l'expérience, qui explique aussi bien que toi, vraiment t'explique super bien. Vraiment.
C'est trop fou. T'es... Parfois je me permets.
Ah, mais t'as l'art de synthétiser une idée. Et comme je disais, moi je suis feignante, j'aime pas lire, honnêtement.
Ouais, du coup c'est pas mal comme format.
Et je trouve que c'est idéal. Je trouve que t'es hyper bienveillante, tu vois, t'as toujours peur de, d'aller, bah, comme tu disais tout à l'heure, d'aller trop loin, de brusquer, mais moi je trouve pas du tout en fait, enfin, tu m'agresses pas du tout, et les personnes qui se sentent agressées, et j'en ai vu sur les commentaires parfois, mais c'est parce qu'en fait, ce qui se passe en elle, c'est que tu remets en question quelque chose qu'au fond d'elle, elle questionne, mais qu'elle se dit non, non, surtout pas.
Ouais. C'est juste ce que tu dis. Ouais.
Et oui. Et donc, quand t'es ouverte à ton discours, ou alors, à la limite, quand t'es convaincue du discours du corps médical, bah, tu parles. Et c'est ça.
Ouais, bien sûr.
Tu ne regardes pas.
C'est vrai ce que tu dis. Ouais.
Oui. Mais bon, après, je lis plus les commentaires.
Ah, mais t'as raison, franchement. C'est une perte de temps. Mais voilà, du coup, heureusement que je te connaissais, parce que vraiment...
Il aurait pu te rematrixer, quoi.
Ah, mais... Il m'a quand même mis mal, tu vois, c'est-à-dire
bien sûr.
Avec cette histoire de streptocoque, machin, de... Alors, risque hémorragique, honnêtement, ça m'a pas trop fait peur. Par contre, ce qui m'a saoulé, c'est que... Alors, honnêtement, avec le recul, je pense que j'aurais pas dû le faire, mais j'ai fait ces examens-là qui m'a demandé les prises de sang. Qui...
Ouais. Ah oui, pour la batterie.
Voilà, parce qu'en fait, j'avais donc ce petit écart. Il m'a demandé, vous êtes une transfusée, vous... Il commençait à rentrer dans des trucs hyper glauques. Et moi, je lui dis, mais pas du tout, en fait. Enfin, j'ai toujours très bien vécu comme ça. J'ai déjà accouché, monsieur. Enfin, voilà.
Ouais.
Donc, et il voulait me faire un toucher vaginal.
Ah, mais...
Et là, alors, heureusement que je te connaissais, mais mille merci, parce que je lui ai dit non. Voilà. Je lui ai dit non. Et je sais pas si c'est l'aplomb avec lequel je l'ai dit ou j'en sais rien. Il a dit, d'accord. Mais franchement, je n'y croyais pas. Et il a absolument voulu me faire une échographie. Je lui ai dit non. Ça, pour le coup, il a insisté. Il voulait voir le niveau de liquide amniotique.
Oui.
Voilà. Il m'a dit, le bébé va bien. Je lui ai dit, oui, je sais. Voilà. Mmh. et puis, je suis partie et je me suis dit, bah, plus jamais je te revois, toi. C'est mort. Non, jamais, quoi. C'était... Et l'anesthésie, ça s'est bien passé. Le gars était complètement neutre.
Ah, attends, c'était pas l'anesthésie,
ça c'était le gynéco.
Ça, c'était le gynéco.
Le gynéco que je ne connaissais pas, qui était le gynéco de l'hôpital, qui travaillait avec ces quatre sages-femmes, en fait.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Alors, en apparence, très sympa, comme j'ai envie de dire, comme la plupart des gens.
Oui.
Mais voilà, dès que tu commences à poser questions et tout, que j'ai osé dire, mais peut-être que le streptocoque ne sera plus là. Tout de suite, il est parti loin, parce que j'ai pas du tout abordé le sujet qu'il a abordé lui.
Tu remettais en cause ce qu'il osait te dire.
Enfin,
tu as osé remettre en cause ce qu'il te disait.
Bien sûr. Ah mais complètement. Et voilà, et puis du coup, les sages-femmes aussi, elles étaient inquiètes par rapport au streptocoque. Après, je sais pas si tu... Parce que là, je vais partir loin, du coup. Je vais...
Si tu veux, tu peux continuer. Je couperai s'il faut.
D'accord.
Ah, encore une petite lumière.
Du coup, ouais, je disais, en fait, quand j'ai accouché de mon deuxième, il y avait cette histoire de streptocoque.
Ouais.
La sage-femme qui est venue, en fait, parce que donc, quand j'ai accouché, j'ai perdu la poche des os. Et à partir de là, j'ai dit à mon conjoint, appelle la sage-femme juste pour la prévenir. Parce que même dans la douleur et tout, j'étais en mode, bon, il faut quand même que je sois respectueuse en lui disant, écoute, je n'irai pas à l'hôpital. Parce qu'elle était sur les starting blocks, en fait, elle attendait. Il y avait une autre personne qui devait accoucher aussi en même temps, à peu près en même temps que moi. Et donc, il y a toujours une des quatre qui est de garde et qui est censée retrouver la personne à l'hôpital. Donc, je lui dis, bah, par principe, préviens-la et dis-lui que le travail a commencé, que, voilà, etc. Donc, il m'appelle. C'était à 7h le matin, donc ça va, elle n'était pas... Et en fait, elle m'a entendue crier au téléphone. Parce que, alors pour le coup, moi j'ai eu mal, voilà, je le dis, j'ai eu très très mal, mais j'ai affronté la douleur et pour moi ça a été initiatique, vraiment. Mmh. J'étais une personne avant, aujourd'hui je suis une autre personne, mais ça m'a changé dans tout mon être. Alors je pense pas que c'est que la douleur, c'est le fait d'avoir accouché seule, vraiment ça, mais j'ai eu tellement raison et franchement je me remercie d'avoir pris cette décision de dire... Eh ben, j'ai mal, eh ben, tant pis. Voilà. Alors, j'ai quand même eu moins mal du fait d'avoir respecté la physiologie que pour mon premier. Je me rappelle que pour mon premier, comme je disais avant, j'étais restée debout chez moi. J'avais instinctivement ce truc de je reste debout ou alors je me mets légèrement accroupie. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi tous tes conseils à la lettre, vraiment. Je pourrais pas tous les citer comme ça parce qu'ils me reviennent pas, mais je sais que je regardais tes vidéos pendant mon travail.
Ah, j'étais ta doula.
Exactement.
Sans le savoir.
Exactement. Après, j'ai pas fait ça tout le long, mais à un moment, j'avais reconsulté quelques trucs parce que ça me boostait, en fait, tu vois. Mmh. Et je me disais, mais merci Roxane, vraiment, mmh. mais merci. Et du coup, j'avais eu envie de m'allonger un moment parce que j'avais un peu mal au dos. Parce que je faisais les 100 pas, en fait, chez moi. Okay. Tu vois, je marchais et tout. Je me dis, OK, la contraction est partie, vas-y, je m'allonge. Et là, je me dis, ah non, mais il y a une contraction qui monte. C'était 1000 fois pire.
Ouais.
Donc je dis, OK, je ne m'allongerai plus. C'est noté. Roxane ouais. avait raison. Tu vois, quand tu t'allonges, mais c'est pire, en fait. Mais...
Bah, la plupart des personnes. Après, il y a cette fille qui s'appelle Eleonore Lelo. Je sais pas pourquoi je me rappelle de son nom. Enfin, elle a plein de followers, donc c'est peut-être pour ça que je m'en rappelle. Mais elle avait mis sur TikTok, sur cette vidéo-là, justement, elle disait « Ah bah moi, j'ai accouché sur le dos, sans péri, et c'était la meilleure position pour moi. Mm-hmm. » Donc, je pense qu'il y a des personnes pour qui, eh ben, voilà, leur corps, il est fait de cette manière, leur bébé, il est positionné de cette manière, et c'est super. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus courant. Les personnes comme nous, pour qui la position allongée, elle est, elle décuple la sensation de douleur, quoi.
Ah mais c'était mon cas. Mmh. Et du coup voilà, je fais les 100 pas, je gère hyper bien les contractions grâce à tes conseils. Honnêtement, vraiment, parce que tout ce qu'on a pu me dire au cabinet de sage-femme, quoi.
Les vocalises, ouais.
Non.
T'as fait bouche molle, col mou, t'as fait oui. la détente du périnée
ah, oui.
et tout.
Complètement. Et trop puis j'ai même développé une technique moi-même, tu vois, pour gérer les contractions. J'ai senti venir. Je les laissais passer. En fait, je ne résistais plus. Et je pense que c'est ça le secret, si ça peut en aider certaines. C'est ben, déjà le fait de vouloir affronter la douleur potentielle. Parce que j'étais vraiment ouverte sur le fait que peut-être que je n'allais pas souffrir. Donc, j'étais pas en mode je vais souffrir. Non, je visualisais mon accouchement beaucoup grâce à ton contenu. Je visualisais, je me disais, bon, voilà, je vais. Je me voyais accoucher toute seule. Même, il n'y avait même pas mon conjoint, tu vois, dans mes visualisations. Je pense que ça m'a beaucoup aidée à me préparer, en fait. Mmh. Et donc, ce que je disais, c'est que de ne pas vouloir résister contre ce qui se passe.
Ouais.
Parce que c'est ce qu'on nous enseigne, en fait, notamment à l'hôpital avec le corps médical et tout. On dirait que les réactions du corps, c'est jamais bien. Ouais, ah non, là, ça va trop vite, là, ça va pas assez vite, là, je sais pas quoi. Donc, toi, t'es toujours en train de résister contre ce qui se passe en toi. Et là, moi, je me suis dit, bah non, en fait, je vais juste laisser faire, laisser être. Voilà. J'ai une contraction, j'ai pas de contraction. J'avais pas du tout mentalisé, en fait. Enfin, quand je dis mentalisé, c'est-à-dire je ne cherchais pas à contrôler, en fait, ce qui se passait. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai perdu la poche des os. Là, donc, mon conjoint appelle la sage-femme parce que je lui ai demandé. Elle m'entend crier, donc je criais très, très fort. J'avais jamais crié comme ça, honnêtement. Je sais pas d'où sortait cette voix. Et en plus, petite anecdote, mon premier... Il dormait en haut, dans sa chambre.
Il t'a pas entendu.
Il m'a pas entendu. Il s'est réveillé quand son frère est né.
Trop bien.
Et il était réveillé par ses pleurs. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, on a fait ça, mais vraiment entre nous. C'est-à-dire que on a demandé à personne de garder notre premier, puisqu'en fait, il dormait. Voilà. Enfin bref, c'était assez lunaire comme truc. Et donc, elle dit au téléphone, elle dit, voilà, je reste en ligne. Moi, dans ma tête, c'était bon, ça sert à rien, mais bon, ouais. Ok. Après, elle était super sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé que ce soit elle qui vienne. Et en fait, elle commençait à dire à mon conjoint de faire des vocalises pour m'aider. Mmh. Bah, on en reparlait encore hier soir, d'ailleurs, avec mon conjoint. Je lui ai dit... Bah, j'étais hyper violente, quoi. Je lui ai dit « ta gueule ».
Alors, ma chérie...
C'est ça. Alors lui, dans son souvenir, c'était ta gueule. Mais moi, dans mon souvenir, c'était tais-toi. Honnêtement, je crois que je me suis contrôlée. Je me suis dit quand même, c'est pas trop méchante. Mais il m'a dit dans tous les cas, l'énergie que t'as envoyée, c'était ta gueule. Voilà. Okay. C'était voilà. Et du coup, il a rigolé, il a arrêté. Et puis elle a dit un truc qui m'a beaucoup aidée. C'est bon. Là, vu comme elle crie, c'est imminent. Et là, je me disais, oh, merci. Parce que je me rendais pas compte, en fait, de où j'étais, de quand. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidée. Donc, merci à elle. Donc, elle est restée en ligne. Après, honnêtement, je sais plus ce qui s'est passé. Il était au téléphone avec elle. Et là, je sais plus trop. Ah oui, il met une bassine en dessous. Moi, si tu veux, j'étais debout et puis je m'accroupissais. J'étais debout, je m'accroupissais. J'ai eu cette phase de désespérance où vraiment je me sentais partir. J'ai pas eu peur. Enfin, dans mon souvenir, j'étais pas mortifiée, j'étais plus qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends pas trop, mais je vais laisser faire, toujours ce truc de laisser faire. Et là, mon grosjean, il me dit, mais t'étais plus là. T'étais plus là, tu regardais à gauche, à droite, enfin voilà. Et je me suis aussi tenue à lui. Okay. Tu veux, il m'a en fait, je me soulevais en me tenant à lui, tu vois. Donc il m'a beaucoup aidée. Lui, il était méga serein, très préparé, grâce au fait que j'ai partagé tout ce que j'avais compris avec toi. Je lui ai montré quelques vidéos et tout. Puis comme lui, il est très très ouvert déjà de base, ça n'a pas du tout été compliqué. Tu vois, ouais. Il était totalement open, il était préparé, il était serein. Il m'a pas du tout stressée, vraiment nickel. Merci à lui.
Trop
vraiment.
Bien, ouais, c'est clair.
Et donc du coup, à un moment, il met une bassine parce que voilà, il y avait du liquide qui sortait, il y a du sang et tout, etc. Et en fait, il est né dans la bassine.
Oh, j'adore.
Il est sorti comme un bouchon de champagne. Voilà, d'un seul coup.
C'est donc tête corps.
C'est ça.
Ou d'abord tête et puis ensuite corps.
Ah non, tête corps.
Ah ouais.
Comme ça. Il est tombé entre guillemets. Il n'est pas tombé parce que j'étais accroupie vraiment au-dessus de la bassine. Ouais. Et comme ça, d'un coup, voilà. Et genre une minute avant, la sage-femme, ça, je m'en souviens, elle demande à mon conjoint, est-ce que tu vois la tête et tout. Dans mon souvenir, il la voyait pas. Quelques secondes avant qu'il sorte, il dit oui, ça y est, je la vois. Et puis là, il est sorti.
Ah ouais.
Et donc la sage-femme elle dit, c'est ça. Elle dit, mais où est-ce que tu en es? Est-ce que tu vois la tête? Il dit, ça y est, elle est sortie. Elle dit, ah, mais déjà
la tête à l'instant.
Mais oui, c'est ça. Et puis après, il restait donc le placenta. Alors la sage-femme, elle était plus apaisée, j'ai senti quand même, parce que je pense que ça l'a stressée, cette situation. Donc elle arrivait, tout ça. Elle-même avait accouché chez elle. Je crois de son deuxième bébé, donc elle connaissait un peu les accouchements à domicile. Par contre, elle était entourée d'une sage-femme, enfin elle avait un peu tout quoi. Bref, donc je dis ça parce que quand elle est arrivée, elle a suggéré, je trouve qu'elle m'a beaucoup aidée en fait pour me remettre de ce qui venait d'arriver quoi. Mmh. Et je lui ai dit, j'ai tellement envie de prendre une douche à un moment, et donc c'est moi qui ai décidé de me détacher de mon bébé quelques instants pour que je puisse prendre une douche, parce qu'elle était trop mignonne, elle commençait à me nettoyer, tu vois, elle avait pris un gant de toilette et tout, enfin j'ai trouvé adorable, et je lui ai dit, mais je suis désolée, je préfère prendre une douche, et elle m'a dit ok, pas de souci et tout, et voilà, et donc elle a géré un peu tout, elle l'a pesé, je crois, je sais plus quoi, enfin pendant que je prenais ma douche, et puis du coup je suis restée à côté de lui, et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, pour mon premier, j'avais tellement besoin qu'il soit sur moi. Et lui, comme je savais qu'on n'allait pas me le retirer, je le prenais sur moi ou je le laissais à côté, machin. Donc j'étais très libre, en fait. Je sentais pas cet empressement de dire « Non, je veux le garder. » Et juste pour le placenta, elle me disait « Bon, t'as accouché. » Donc au téléphone, elle me disait « Tu peux rester comme ça, le placenta. » Alors, il y avait ces fameuses 45 minutes, là, dont tu parles aussi. Moi, j'avais en tête ce que tu disais par rapport au placenta, que ça pouvait rester très longtemps. Même pour toi, je crois que ça a duré...
3 heures.
3 heures, ouais, c'est ça. Donc, j'étais pas du tout inquiète, tu vois. Et je restais, j'ai dit oui, pas de problème, j'attends. Et en fait, à un moment, j'ai senti comme un autre accouchement, si tu veux. Donc, je me suis mise en accroupie. Et j'ai poussé, et c'est sorti.
Ouais.
Comme trop ça. Bien. Par contre, j'ai super mal, c'est le cercle de feu, c'est là que je l'ai senti.
Pour ton bébé ou pour le placenta?
Pour le placenta, pas pour mon bébé.
Drôle.
Pour le placenta, j'ai senti la brûlure extrême.
Ah, voilà. Puis le placenta tout flasque là. Bleh.
Oui, ouais, c'est énorme.
Tu vois, à ce moment-là, tu te dis, oh, oui, saoulé.
C'est ça. Puis je trouvais ça énorme. Je me suis dit, moi, il y a tout ça dans mon ventre.
Vous n'avez pas l'image, mais elle m'a fait la taille de galette.
Ah ouais, non, mais vraiment, j'ai halluciné. Parce que le premier, du coup, je l'avais pas vu sorti comme ça, quoi.
Ouais.
Et voilà, j'ai senti aussi, vu que j'avais aucun produit dans mon corps, que tout était naturel, donc pas d'anesthésie, rien. En une seconde, c'est comme si j'étais redevenue comme avant d'être enceinte. Tu vois,
c'est drôle.
Ça, je l'ai senti.
C'est drôle.
Je me suis dit, attends, là, une fois que le placenta est sorti, une seconde, je dis, c'est bon, okay, tout est redevenu comme avant, voilà. Et donc, j'avais une micro, je sais pas si c'est micro, mais j'avais une petite déchirure, mais... ça me faisait pas mal du tout.
Et qui nécessitait pas forcément de points?
Et non. J'ai demandé, parce qu'elle voulait me faire des points. En fait, elle a appelé l'autre sage-femme avec qui elle bossait, une autre, et elle lui a dit ouais, « Est-ce que tu peux m'apporter le matériel pour faire les points et tout ?» Moi, je l'ai coupé, je lui ai dit « Est-ce que ça nécessite ?» Comme ce que tu viens de dire. Et là, elle regarde et elle dit « Bah non. » Je dis « Bah moi, je vais laisser comme ça. Voilà, je veux que ça cicatrise, je veux pas qu'on me touche. » Alors, par contre, ça, c'est un truc, c'est, je voulais pas qu'on me touche.
Ouais.
Et bah du coup ça saignait beaucoup, donc voilà, j'ai mis une protection machin, enfin pas la déchirure hein, mais juste le sang normal.
Ouais.
Enfin moi en tout cas ça a beaucoup saigné. Alors peut-être cette histoire de plaquettes n'est pas si fausse que ça, tu sais, voilà.
Ça mais, veut dire quoi saigner beaucoup?
Bah c'est...
Tu te sentais mal?
Non, pas du tout, absolument pas. Non non.
Et ça s'est arrêté à un moment donné en fait, tout seul?
Alors le.
Ou est-ce qu'elle t'a fait un shot?
Ah non, elle m'a rien fait. Non, non. Non, ça, en fait, à partir du moment où j'ai accouché, ça a saigné pendant environ un mois, mais après, ça a diminué. Hein.
Ah oui, les lochies,
oui,
c'est ça. Mais ça a été un peu fort au début.
Oui,
quoi.
Au début, c'était très intense, quoi. C'est-à-dire, mais bon, elle, ça l'inquiétait pas, moi non plus. C'est juste que ben, j'étais mal à l'aise parce qu'il fallait que j'avais une protection, tu sais,
les grosses slips.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, il fallait que j'en change assez régulièrement dans la journée, en fait. Parce
d'accord.
Que c'était... voilà. Et après, en fait, j'étais complètement opérationnelle. Je pouvais vivre normalement, en fait. Je pouvais me lever, m'occuper de mes enfants. Mmh. Enfin, voilà, c'était génial. Et vraiment, merci, quoi.
Non, et alors, attends, t'es trop chou. Merci à toi. Pour la sage-femme, donc... Ton compagnon, il l'a appelé pendant que tu étais en train d'accoucher. Vous avez dit, c'est simplement pour t'informer, nous ne venons pas. Et elle est restée dans la bienveillance, oui. Dire, ok.
Oui.
Trop bien. Et il y a un moment donné où il a été dit, est-ce que tu peux juste venir quand le bébé est sorti?
Bah, en fait, c'est elle qui a décidé de ça. Nous, on n'avait pas du tout cette exigence. On ne voulait pas forcément qu'elle vienne. Enfin, on ne voulait pas non plus qu'elle ne vienne pas. C'est elle qui a improvisé totalement.
D'accord.
Elle a dit, au lieu d'aller à l'hôpital, je vais chez vous.
Trop bien,
voilà.
Ah, ça c'est chouette.
Donc vraiment, elle était super sympa. Bon, en fait, nous, on n'avait aucune visibilité sur l'après, ce qu'il fallait faire et tout. Donc elle nous a quand même aidé. Elle a permis de faire la déclaration,
oui,
la
c'est
mairie,
ça.
Tout mm-hmm. ça, machin.
Voilà. Oui, il y a le papier.
C'est ça. Donc elle a tout géré comme ça. Et puis au final, la prise en charge, au lieu que ce soit à l'hôpital, ça a été à la maison. Alors en fait, moi, ce que j'ai dit, d'un côté, j'ai accouché en 45 minutes.
C'était ma seconde question.
Voilà.
Ouais.
En 45 minutes, j'ai accouché. Par contre, les contractions, je les avais depuis quelques heures, honnêtement, mais elles étaient totalement gérables et pas aussi douloureuses que pour mon premier, par exemple. Et donc, comme j'avais ce truc de vouloir accoucher chez moi, je me disais, en fait, je vais jusqu'au bout. Et puis, dans l'absolu, si jamais, mais bon, c'était quand même exclu, hein, mais... Peut-être j'irai à l'hôpital, je sais pas, mais en même temps avec ce que j'avais visionné sur tes vidéos, c'est l'hôpital, c'est genre contre-productif de faire le trajet.
En plus, bien sûr.
En plus, surtout que moi c'était super loin. Enfin bref. Donc du coup, je voulais pas prévenir pendant les contractions parce que je savais qu'on allait me dire d'aller à l'hôpital. Et en fait, j'avais tout fait comme le système le voulait. Et maintenant, c'était à moi de décider en fait. Mmh. Donc voilà. Et comme je gérais très bien, même si oui, ça fait mal, mais je gérais. Mon compagnon, il était super sympa, adorable, je l'aime trop, voilà,
si tu nous écoutes.
et donc, du coup, j'avais aucun stress. Et donc, à partir du moment où j'ai perdu la poche des os, 45 minutes.
Ah voilà. Oui, c'est ça, d'accord, c'est ça qui a fait que... Mais du coup, ton accouchement, il a duré un peu plus, quelques heures.
Oui, il a duré quelques heures, c'est vrai, mais je trouve que ça a été rapide par rapport au premier.
D'accord, ok. Génial.
Ouais.
Oh, quelle histoire, tu sais que ça me donne envie de refaire des bébés, là, mais il faut pas... il faut faire les choses, chaque chose en son temps.
Bah oui.
Donc en fait, t'as eu plusieurs heures de contraction, donc qui étaient douloureuses, mais que tu gérais.
Oui.
Il y a ta poche des os qui s'est rompue.
Oui.
Et donc c'est là que t'as commencé à crier, que vous avez appelé la sage-femme. Est-ce que... Donc c'est là que t'as eu ta phase de désespérance, en fait.
Oui.
Ok. Et donc là... Quand tu dis phase de désespérance, est-ce que les douleurs s'intensifiaient ou est-ce que c'était juste mentalement, tu disais, oups là, je suis plus là,
c'est
ou
ça.
Je...
Ouais, j'étais plus là.
D'accord.
J'avais limite plus mal, tellement j'étais déconnectée du corps, en fait. C'est comme au-dessus de mon corps. Et ça a duré pas très longtemps. Je saurais pas dire si c'était une minute, deux minutes, quelques secondes. je sais pas.
Oui, on n'a pas.
Mais c'était intense.
Trop bien. Et donc tu l'as beaucoup dit avec ton conjoint, ça a été hyper simple. Il y a quand même eu un moment où tu as dit bon bah en fait on va accoucher à la maison, mm-hmm. il y aura pas de sage-femme. Et pour lui c'était oui, d'accord.
Oui, exactement. Oui.
Il en faut plus des comme ça.
J'avais eu le 24 décembre, donc j'ai pas compté, mais donc genre 2 semaines avant,
ouais.
un faux départ, on va dire. C'est-à-dire que j'avais des contractions différentes de celles que j'avais avant, de Braxton.
Ouais, Braxton Hicks.
Voilà, et du coup, je me disais, bon, peut-être que je vais accoucher ce soir. Et il était informé, tout ça, de tout. On avait beaucoup discuté. Et là, il était plus paniqué le 24 parce que, en fait, il avait pas réalisé, je pense, ce que ça impliquait, en fait, tu vois. Donc, il était... Enfin, quand je dis paniqué, c'est un grand mot. Mais il était moins serein. Et alors, il commençait à s'agiter, à prendre des trucs, à dire, oh, OK, on va mettre ça par terre, on va faire... Et finalement, il s'est rien passé. J'ai dormi, et voilà. Et il m'a dit, heureusement qu'il y a eu ce faux départ. Mmh. Parce que moi, ça m'a permis de me mettre dans le bain et de me préparer et de dire ok. Et de toute façon, dès le départ, il n'y avait pas de sage-femme. C'était prévu comme ça,
ouais.
Et il était totalement ok.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, parfois, il y a des accouchements qui... Enfin, des accouchements qui commencent. Parfois, tu as des contractions et puis après, ça s'arrête pendant des jours et... T'as des mères qui... Enfin, t'as des personnes qui peuvent aller à l'hôpital et se dire « Mince, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal et tout. » Mais ça se trouve, c'est réfléchi... Enfin, c'est pas réfléchi parce que c'est le corps, mais ça se trouve, c'est biologiquement pensé, en fait. Oui. C'est que oui, c'est pour que la personne enceinte et les personnes qui accompagnent aient l'occasion de se préparer mentalement. C'est drôle. Enfin, mm-hmm. moi, j'ai vraiment ce truc dont je parle parfois, mais... Souvent, quand je suis face à des trucs que je comprends pas ou je sais pas quelle décision prendre ou dans quelle direction aller, je réfléchis à ça. Je me dis, mais comment ça se passe à l'origine, il y a 10 000 ans, quand on n'est pas une espèce... Enfin, pas il y a 10 000 ans, mais du coup, il y a 50 000 ans, quand on n'est pas nous aujourd'hui, tu vois. Et en fait, oui, le corps, il est pensé pour, quoi. Enfin, oui. les choses, elles sont censées se dérouler de telle manière et je trouve ça hyper intéressant.
Ah ouais, mais moi,
tu vois, plutôt que de se dire c'est du faux travail, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le col qui marche pas, mais en fait c'est pas ça, c'est juste, peut-être que c'est juste un truc, coucou les gars, on se prépare.
Oui.
Et on se revoit dans 2 semaines, tu vois.
Mais c'est ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé.
C'est hyper intéressant.
Et moi j'ai bien aimé avoir ce faux départ parce qu'en fait, il a réalisé. Parce que ce que je constate chez les hommes, et ça c'est plus même, ça dépasse un peu le domaine de la grossesse, l'accouchement, etc. Parce que déjà, eux ne le vivent pas, mais ils ont du mal à se projeter souvent. Alors que les femmes, je trouve qu'elles ont un peu plus ce truc, voilà. Et donc, ce qui peut parfois rendre la communication compliquée. Ouais. Mais du coup, le fait d'avoir eu ça, ça a eu aucune modification, aucun impact particulier sur moi. Mais par contre, comme tu dis, sur lui, ça a tout changé. En fait, j'ai bien vu qu'il réalisait « Ah oui, d'accord, ça va se passer ». Et moi, je me disais « Mais attends, mais on en parle depuis très longtemps, il n'a toujours pas capté ». Voilà. Et en fait, si, après, c'était son temps à lui, ouais. C'était à ce moment-là. Et oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le corps est fait aussi pour alerter les personnes autour, pour leur dire préparez-vous, soyez sereins. Donc, je trouve que tout s'est passé parfaitement, en fait, comme ça devait se passer. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui auraient peut-être dit « Bon, je veux aller à l'hôpital parce que là, c'est bizarre ». Et moi, j'étais très sereine. Et franchement, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment grâce à toi. Oh. Vraiment.
Et donc moi, je suis obligée de le rappeler, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi entièrement. Et moi, je suis arrivée dans ton chemin et j'ai balisé un petit peu ton chemin, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et encore une fois, et donc je racontais avant qu'on enregistre, il y a plein de personnes qui tombent sur mes vidéos, qui sont enceintes et qui swipent parce que ce n'est pas le moment pour elles de voir ça, parce que voilà... Et c'est ok aussi. Enfin, voilà, c'est le chemin. Et du coup, ça me refait venir à un truc, le streptocoque.
Mm-hmm. Comment la gérer ?
Bah ouais. Alors... Parce que donc du coup, la sage-femme, elle est au téléphone et elle se dit pas « Oh putain, la streptocoque, le bébé, il va clamser. »
Non, parce qu'en fait, comme elles étaient quatre à s'occuper de moi, elles avaient pas forcément mon dossier en tête. Et tant mieux. Bah voilà. Ouais. Donc en fait, j'ai accouché, machin. Elle a fait tout ce qu'il fallait, la paperasse et tout. Et ensuite, à un moment, elle demande à mon conjoint. Elle dit « Mais au fait... le test du streptocoque, il a été fait, oui. Bon, bah, il était négatif. Et puis, bah, lui, il était mal. Il dit, bah, non, il était positif. Il a pas menti, quoi. Voilà, ça sert à rien, de toute façon. Et là, elle a commencé à, je pense, un petit peu paniquer quand même, à se dire, oulala, là là, ça craint, surtout que la seconde allemande, elle me demandait, est-ce que tu veux quand même aller être hospitalisée ? J'ai dit, ah non, mais surtout pas, non. Et donc là, elle me dit, bah, je vais appeler un pédiatre, parce que dans le cabinet où elles étaient, il y avait un pédiatre. Et elle est amie avec lui, et en fait, elle lui a demandé, voilà, ce qu'il fallait faire. Donc le gars, heureusement, il n'a pas voulu m'hospitaliser, mais elle partait de ce principe. Hein. Ouais. Elle disait, je pense que tu vas devoir. Et moi, j'étais là, oh non. Et donc, il fallait que je lui prenne sa température toutes les heures, okay, à mon bébé. Je l'ai fait, honnêtement, pas toutes les heures. Non. Voilà, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, mais je pense que c'était pas très... voilà. Et puis, bon, au final, il n'avait rien. Donc, il ne s'est rien passé. Il n'a eu aucun problème. Je tiens à préciser, il n'a eu aucun problème. Voilà, il était tout à fait normal. Il n'avait pas de problème respiratoire. Enfin, rien. Rien du tout.
Et si ça se trouve, tu n'étais plus porteuse du streptobé, oui, à ce moment-là. Et si ça se trouve, tu étais porteuse, mais... Simplement, il n'a pas été colonisé, et puis c'est tout, en fait.
Mais c'est ça, oui. Puis de toute façon, moi, je me dis, quand j'y réfléchis un petit peu, je me dis, de manière physiologique, le bébé sort, même si c'est un petit peu progressif, il sort quand même assez rapidement, puisqu'il y a la gravité, quoi, tout simplement. Et du coup, il ne respire pas dans...
Non, il ne respire pas, mais tu sais, c'est le contact,
oui,
avec les muqueuses, tu vois, et donc...
Et une fois qu'il respire, peut-être qu'il peut éventuellement... Mais bon,
après, enfin... ça migre. Moi, je peux voir le truc, mais enfin, c'est simplement que... Il y a plein de trucs qui se battent dans ma tête, je sais pas dans quel sens le dire. C'est simplement que c'est pas parce que tu étais porteuse du streptocoque B à un moment donné qu'il sera encore là. Et quand bien même il serait là, tu ne vas pas forcément coloniser ton bébé. Et quand bien même il serait colonisé, mm-hmm, il va pas forcément développer une infection. Et quand bien même il développerait une infection, il va pas forcément mourir. Enfin,
oui,
tu vois,
oui,
c'est tout un chemin. On nous dit forcément streptocoque B, hop, il meurt. Bah, en fait, non. Il y a plein de choses, possibles. Est-ce que... Il y a une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que... Ah, si, il y a un truc que je voulais dire quand même. Et merci, parce que ça fait plusieurs fois que tu me remercies, et à chaque fois, je repousse ton merci, parce que ça me gêne beaucoup, mais je pense que c'est pas bien de le faire, donc j'apprécie vraiment que tu me dises ça. Vraiment. Bah, c'est juste que je sais pas accueillir ça, et ça me met mal à l'aise.
Bah, je comprends, mais vraiment, c'est sincère, déjà, parce que je dis pas ça pour te faire plaisir, c'est la vérité. Sans toi... Je ne sais pas du tout comment j'aurais accouché de mon deuxième.
Oh, bah...
Et je ne sais pas comment, dans quel état j'aurais été. Est-ce que j'aurais été aussi sereine ? Je ne sais pas. Mm. Voilà, donc tu as joué un grand rôle que je t'ai attribué. Mais je veux dire, c'est moi qui ai décidé.
Oui.
Mais quand même,
on a été une équipe.
Oui, c'est ça. Et je t'avais remercié sur TikTok quelques mois après mon accouchement, ou quelques semaines, je ne sais plus. Bon, après, tu reçois tellement de messages que je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais remercié. Je me suis dit, voilà, il faut quand même que je lui dise, même si ça va se noyer dans toute la masse de commentaires. Et puis après, récemment, quand on a pris contact, au final, tu faisais des vidéos sur YouTube. Moi, je suis plus YouTube à la base.
Ah, c'est marrant.
Donc voilà, j'ai dit, tiens, tu fais des vidéos, c'est trop bien. Alors, je commençais à regarder et tout, puis voilà, je crois que c'est sur une vidéo YouTube que je t'ai dit, moi je peux te parler de mon expérience, et que vraiment c'est grâce à ton contenu, vraiment.
Mmh. Ouais. Voilà. Bah, trop bien, merci beaucoup. Et en vrai, ça me met mal à l'aise, et je sais pas recevoir les compliments. Enfin, moi vraiment je suis pas du tout bonne à ça, et après je pense que je peux être désagréable. Bon, ça c'est encore un autre sujet. mais en vérité, je fais ça pour ça.
Oui.
Enfin, tu vois,
oui,
je fais ça, bien sûr, pour aider les gens. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Et du coup, moi, ça me remplit de joie. Et vraiment, je me dis que j'ai vraiment trouvé ma voie. Donc, c'est vraiment génial. Mais il faut juste que les choses restent à leur bonne place. Oui. Moi, je crée du contenu pour les gens qui sont capable de le recevoir et de l'utiliser. Et après, c'est ton chemin et c'est toi qui fais que tu as pris le contenu et tu et t'as été vers ton... sur ton chemin, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est juste... parce qu'il y a, tu vois, parfois, c'est grâce à toi, si j'ai accouché comme ça.
Oui,
c'est pas,
bien
c'est
sûr.
C'est pas ça. Ah, non, c'est, mais... c'est toi, c'est grâce à toi toute seule. Et moi, j'ai aidé quelque chose, tu vois. Et c'est juste, je veux être sûre que ça se soit bien...
Ah oui, non, c'est clair, t'inquiète pas, c'est très clair. C'est ma responsabilité, ce n'est pas la tienne.
parce que vraiment, il faut que tu sois fière de toi. Ah, oui. Tu vois, il faut que les gens comprennent que c'est eux... Tu vois, parce qu'on a ce truc avec le système médical, tu vois,
de dire, tout reporter.
C'est l'autre, c'est grâce au docteur, c'est grâce à la chacha, mais pas du tout, pas du tout.
Ah, mais totalement, mais moi, je suis très fière de moi, vraiment. En fait, peut-être que je m'exprime mal, mais là où je te remercie, c'est d'avoir une authenticité, tu vois, sans filtre. En même temps, beaucoup de bienveillance, de nous... Parce que je trouve que c'est un travail colossal de lire des études, de les synthétiser... au maximum, de les transmettre, de créer un contenu autour de ça et autour de toutes les autres choses avec lesquelles tu te documentes, comme ça, gratuitement. De dire, bah, allez, voilà, je vous donne ce que moi j'ai appris, ce que j'ai compris, bah, avec mon expérience, avec mes connaissances et tout. Moi, je trouve ça énorme et du coup, c'est plus ça pour lequel je te remercie. Et quand je dis que c'est grâce à toi, c'est grâce au fait, à tout ce travail colossal que tu as fait, que moi, je n'ai pas fait et que je n'aurais jamais eu la patience de faire. Honnêtement.
Mais on n'a pas le temps. Enfin...
Bah, c'est ça. Et donc, du coup, je te remercie pour ça parce que grâce à tout ça, c'est comme si tu avais additionné plein d'éléments qui sont, en temps normal, éparpillés et que moi, j'irais pas chercher l'un après l'autre. En fait, tu les as tous additionnés, tu nous les as donnés. Et c'est ça que... quand je dis grâce à toi, c'est parce que grâce à tout ce que tu transmets, et ben moi, ça m'a changé, mais parce que je l'ai permis... Mon état d'esprit et grâce à ça j'ai pu accoucher et je suis très fière de moi et vraiment moi ça m'a changé hein. Ça m'a changé toute ma vie, c'est pas juste cette histoire d'accouchement, je suis une autre personne. Honnêtement, avant j'étais super timide, je n'aurais jamais pu te rencontrer, j'aurais été méga intimidée, j'aurais pas pu parler comme ça, enfin j'ai énormément changé, donc ça c'est moi. Mais voilà, je me dis, mais c'est incroyable de faire ce que tu fais et merci quoi.
Non, t'es trop chou. Merci beaucoup, c'est ça. Je suis très touchée.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.